Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien, Dan, merci toi-même.
Oui, très bien. J'étais au match d'ouverture des Capitales. Évidemment, toi, tu étais là plus que pour le match d'ouverture. Mais c'était Carl Gilna qui a lancé. Ça a été le fun pour le match d'ouverture, pour lancer ça. C'était pas super chaud, là, mais j'étais content d'être là pour que la saison reprenne. Après ça, je suis parti 4 jours à Boston, donc j'ai perdu le fil un peu des Capitales. Ils ont un bon début de saison?
Ben écoute, 3 victoires en 4 matchs à la maison, je pense que c'est très, très, très satisfaisant, surtout face aux Jackals qui ont l'air d'avoir une bonne équipe. Mais là, le calendrier est un peu drôlement fait dans le sens où il y avait une journée de congé hier. Ils devaient jouer à Rockland ce soir, mais c'est remis en raison du mauvais temps. Donc, on joue un double demain, mais demain, on joue en matinée. Donc, le premier match, c'est à 10h30 demain matin. Fait que au moins, ça te donne du temps en masse pour jouer ton programme double, ça, c'est certain. Mais ça a été une très belle fin de semaine parce que, tu l'as mentionné, c'est sûr que les soirées étaient quand même assez fraîches. Mais je pense que ce que Patrick Scalabrini nous avait dit durant le camp d'entraînement, c'est qu'on va être très bon sur la butte, mais va falloir gratter pour aller chercher des points. Ben, c'est un peu ça qu'on a vu. Là. 3-0 le premier match, 6-1 le deuxième, 2-0 le troisième. Les Capitales avaient donné juste un point dans les 3 premiers matchs. Dimanche, ils ont perdu 6-2, mais c'était très, très, très satisfaisant. On a vu de belles choses sur la butte défensivement. C'est sûr qu'en attaque, le retour de Tessenbaum, qui devrait arriver quelque part au mois de juin. Puis là, à partir de demain, les Capitales ont un nouveau voltigeur, Stephen Gaillard, qui va devenir le premier frappeur de la formation.
Okay.
Je pense qu'on ajoute des pièces intéressantes au casse-tête, mais écoute, comme première fin de semaine, c'est difficile de demander mieux au niveau baseball, les résultats sont bons, puis au niveau température, tant que t'as pas de pluie, c'est pas trop grave, puis samedi, Dan, il y a eu de la pluie, mais la surface synthétique fait en sorte que tu peux étirer un peu les matchs quand t'as de la pluie, c'est très différent, donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs, puis les Capitales vont revenir à la maison lundi, le 28 mai, pour un séjour de 7 matchs à la maison.
Lundi prochain, donc le soir où la Ligue nationale a décidé de débuter sa finale, explique-moi comment les gens de marketing de la Ligue, probablement dû à une disponibilité de l'aréna, mais j'ai vraiment de la misère à comprendre ça, aujourd'hui on sort les dates de la finale de la Coupe Stanley, et on décide de pas jouer un samedi soir.
Non, puis écoute, moi, je jasais avec des amis, puis on se disait, ben cette année, probablement que ça va finir un peu plus tôt que prévu. Tu sais, je regardais l'horaire, je me disais, on va commencer ça à fin mai, puis à quelque part, tu sais, 6-7 juin,
après,
ça
va
être fini. Puis au lieu de ça, ben on étire la sauce. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, Dan, dans la logistique de la Ligue nationale. Moi, il y a une chose, premièrement, il faut que je te dise que je suis content que les Jets et les Prédateurs se soient affrontés en deuxième ronde parce qu'il y avait plus d'intérêt, la température était moins belle, puis on dirait qu'on a eu le temps de voir cette série-là qui était la plus attendue. Là, on verra qu'est-ce qui va arriver, qui va s'affronter, puis quel sera l'intérêt des gens. Mais tu sais, juste dans la première ronde, Dan, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un ou deux samedis, là, ou un dimanche, il y avait 4 matchs dans la journée. Il y en avait 2 à 3 heures, puis tu sais, tu dis, comment ça on n'a pas compris le principe de ce que la NBA, par exemple, fait. S'il y a 4 matchs dans la journée, il y en a un à midi, 3 heures, tu sais, 7 heures, puis 10 heures, puis c'est toujours bien, c'est bien, bien, bien fait, puis s'assurer qu'on peut se voir tous les matchs. Puis on dirait qu'avec la Ligue nationale de hockey, il y a toujours des drôles de décisions qui sont prises. On se retrouve en première ronde, des fois, avec 2 ou 3 matchs en même temps, puis on n'en a pas le soir, puis des choses comme ça. Puis là, ben, écoute, c'est sûr qu'il y a toujours une question de disponibilité d'aréna. Ça, on peut comprendre ça. Mais je pense qu'on pourrait certainement, dans des cas où les séries se terminent un petit peu plus vite, qu'on pourrait peut-être s'arranger pour jouer un petit peu plus vite, finir fin mai, début juin, puis peut-être 1 ou 2 semaines plus tôt que prévu, puis ce serait merveilleux pour tout le monde. Fait que je suis curieux, je serais même curieux de savoir quel sera l'intérêt de la planète hockey. C'est sûr que les gens qui aiment le hockey, le fait que Vegas sera là, je pense que c'est un attrait qui est quand même intéressant. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, quand il commence à faire beau, est-ce qu'un Alexander Ovechkin ou est-ce que le Lightning de Tampa Bay est quand même un club intéressant à voir aller? Est-ce que c'est assez pour garder les gens devant le téléviseur rendu fin mai, début juin? J'ai hâte de voir quels seront les codes d'écoute en conséquence.
François, es-tu surpris de la signature d'Antiniemi avec Montréal?
Ben certainement oui, parce que moi, l'an passé, quand on a signé Charlie Lindgren, c'était un contrat de 3 ans à un volet. Puis quand dit un volet, moi je pensais que ça voulait dire qu'il devenait presque automatiquement le backup, le substitut. Là, évidemment, dans le cas de Lindgren, ce qui est pas compliqué, c'est qu'il y a encore la possibilité de l'envoyer à Laval l'an prochain
sans qu'il
passe par le ballottage.
Mais avec le salaire de la Ligue nationale.
Oui, exactement, parce que là, tu as un contrat à un volet, ça veut dire si tu es à Laval ou à Montréal, il va gagner le même salaire. Puis tu sais, je me remets dans le contexte, tu recules de quelques mois, probablement qu'un gars comme Lindgren a n'aura pas vraiment été intéressant un contrat à deux volets, en tout cas pas pour trois ans, peut-être pour une saison, mais pas les deux dernières. Des fois, on voit ça dans certains contrats. Mais, tu sais, il y a une chose dans le cas d'Ntinyemi, on fera pas une grande histoire avec un gardien substitut, mais il faut admettre qu'il a fait le travail et pas à peu près comme un gardien substitut. Ouais. Et la seule chose, Dan, c'est que si on en parle autant l'année prochaine qu'on en a parlé cette année, ça veut dire que le Canadien est dans le trouble.
Ça va être mauvais signe, ouais.
Ton backup est supposé être là une fois par deux semaines. Quand il joue un match sur la route dans un 2 en 2, quelque chose comme ça, il va te donner, si ton gardien numéro 1 est bon et en santé, il va te donner 10, 12, 15, 20 matchs au max. Fait que si on en parle plus l'année prochaine, c'est un peu inquiétant. Puis, tu sais, quand tu parles strictement au niveau hockey, Dan, je pense que Charlie Lindgren a besoin d'une autre saison à Laval. Oui. Peut-être aussi avec, tu sais, sans dire une nouvelle organisation, mais du nouveau monde qui vont peut-être agir de façon différente avec lui, parce que ça a vraiment été une saison en montagne russe. Je pense qu'il aurait pu se débrouiller comme substitut, mais une autre saison complète, là, vraiment à être le numéro un, parce qu'on ne sera pas de cachette que c'est lui le numéro 3 de l'organisation après Niemi puis Price. Je pense plus que Fukale puis des gars comme ça. Je pense que même McDevin est passé en avant de Fukale à un certain moment donné. Fait que c'est sûr que Lindgren a besoin de jouer, tu sais, du 40, 50, 60 matchs l'année prochaine et pas être un substitut pour 15 matchs dans la Ligue nationale.
Jean Perron dirait qu'il y a eu une saison à Brindy.
Ouais. Mais je veux dire, mais je suis curieux de voir si on faisait le tour, Dan, on était 10 autour d'une table à se dire où est-ce que tu vois Charlie Lindgren dans 5 ans. Je suis pas sûr que tout le monde aurait la même réponse. Puis sincèrement, je le trouve énigmatique, le jeune homme. Je sais pas s'il va devenir un gardien de premier plan ou s'il va devenir un substitut dans la Ligue nationale.
OK. Il y a beaucoup de mouvements personnels dans la Ligue nationale actuellement. Si je t'avais dit... je vais faire attention parce que même il y a un an, on savait que ce jeune-là était très prometteur. Maintenant, je t'avais dit il y a 5 ans. OK? Il y a 5 ans, d'après moi, tu n'avais jamais entendu parler de Kyle Dubas. Puis là, je te dis, hey François, dans 5 ans, il y a un kid de 32 ans, il va être nommé DG des Leafs. Puis quand il va être nommé, là, Lamoriello puis Mark Hunter vont partir. Tu m'aurais dit, tu es malade, toi, deux monuments. Lamoriello encore plus monument que Mark Hunter. Mais Mark Hunter a une très bonne réputation dans la Ligue nationale. C'est à lui qu'on doit, je pense, l'arrivée de Mitch Marner avec les Leafs parce qu'il était avec Dale Hunter, son frère, avec les Knights de London pendant plusieurs années. On dit de lui qu'il est l'un des meilleurs de la Ligue pour analyser le talent des jeunes joueurs. Et l'effet Dubas fait en sorte qu'au cours des dernières heures, et Lamoriello et Mark Hunter ne sont plus avec les Leafs.
Oui, mais je vais te dire une chose. Moi, Carl Dubas, je suis un peu comme toi, je ne le connaissais pas il y a 5 ou 6 ans, mais je l'adore, le jeune homme. C'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle façon de faire. Puis je pense que tu vas sûrement avoir de plus en plus de ces signatures-là. Puis je pense que, Dan, à quelque part, il faut quand même remonter de quelques années. Puis je pense que l'effet Théo Epstein... Il y a quand même un lien avec tout ça.
Très bon parallèle.
Théo Epstein, je lisais un article aujourd'hui, il est rendu à 44 ans. Ça veut dire quand il dirigeait les Red Sox au début des années 2000, il avait même pas 30 ans à ce moment-là. Puis il a fait un travail phénoménal. Ouais. C'est sûr que ces gens-là, souvent, puis c'est vrai pour le baseball, c'est vrai pour le hockey aussi, on aime énormément les statistiques avancées. On n'analyse pas les choses de la même façon. Mais moi, je pense qu'on a pris la bonne décision sans rien enlever à Hunter, Lamoriello ou peu importe. Je pense qu'on est rendu là. On donne les rênes à un jeune de 32 ans, mais faut pas s'inquiéter. Il va être très, très bien entouré. Puis il y a beaucoup d'expérience autour de lui. Puis moi, ce qui me fascine, Dan, tu as vu, je pense que c'est hier ou avant-hier qu'on a annoncé Paul Fenton qui devenait le nouveau DG au Minnesota. Oui. Puis il y a quelqu'un qui écrivait sur Twitter, tu l'as peut-être vu, que Paul Fenton a un agent pour négocier son propre contrat. Là, j'ai trouvé ça fascinant. Tu disais, attends un peu, là. Tu donnes les rênes de ton équipe pour négocier les contrats de tes joueurs puis des agents libres, mais lui préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui négocie ses propres contrats.
Ouais.
Je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Je trouvais pas que c'est quelqu'un qui est en plein contrôle de la situation. Et peut-être qu'il va être un très bon DG qui va prendre des bonnes décisions, mais ça me laissait un peu perplexe sur les capacités de Paul Fenton. Mais dans le cas de Carl Dubas, je pense que c'était écrit dans le ciel que c'était lui qui était le successeur, puis que c'est avec lui que là, on arrive, Dan, à la période où on dit, là, c'est fini, là, on fait juste les séries, puis on perd en première ronde. Ça prend des résultats. Et là, la question, c'est est-ce que son premier défi, c'est de réussir à attirer John Tavares à Toronto? On verra, parce que là, ce qui est drôle, c'est que Lou Lamoriello devient son compétiteur direct dans ce dossier-là.
C'est ma prochaine question.
Parce que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Dan, mais je pense pas que Van Riemsdyk va revenir à Toronto.
Non.
Pour le prix que ça va coûter. Si on est prêt à investir beaucoup d'argent dans un joueur, je pense qu'on va tenter notre chance avec Tavares.
Oui.
Mais j'ai peur de voir, est-ce que John Tavares va être loyal aux Islanders dans la direction où on s'en va, ou est-ce que le trip d'aller jouer en Ontario pour une équipe qui s'en va dans la bonne direction pourrait l'attirer? C'est évidemment le gros dossier qu'il va avoir dans les prochaines semaines.
C'était ma prochaine question. Si tu t'appelles Gard Snow puis tu apprends que Lou Lamoriello devient ton patron parce qu'il s'est lié entre le propriétaire et le DG, il devient président des opérations hockey. Est-ce que si t'es Gard Snow, tu te dis « Oh boy, je suis dans le trouble parce qu'aussitôt que ça va mal aller, ils vont y donner le poste de DG » ou au contraire, tu te dis « Lamoriello a peut-être les contacts et la façon de négocier pour attirer Tavares » ou en troisième choix de réponse, comme dans nos examens du ministère au secondaire, tu pourrais répondre « C » aussi, François. « C », ce serait « Les Islanders sont déjà au courant de ce que va faire Tavares
». Ouais, puis mais écoute, moi je vais peut-être même ajouter presque deux là, toutes ces réponses.
Okay.
Parce que je pense que c'est certainement pas une bonne nouvelle pour Gard Snow, même si on sait que Lou Lamoriello est en fin de carrière, puis il veut pas avoir un autre poste de DG à temps plein. Puis de l'autre côté, comme tu l'as mentionné, son réseau de contacts, puis je pense que sa façon de faire les choses peut changer aussi un peu l'ambiance qui règne au deuxième étage, puis la façon de faire les choses. Je pense que tout ça mis ensemble fait en sorte que ça peut être très, très positif, l'arrivée de Lamoriello, mais c'est certain qu'à un moment donné, Gard Snow, on s'entend qu'il vit déjà sur du temps emprunté, là, avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière de négatif par rapport à ce qui était positif. Fait que tu sais, tout ça mis ensemble, je pense que ça va vraiment ensemble, mais tu dis, dans le cas de Tavares, moi, je suis convaincu que les Islanders n'ont pas encore une réponse. Je pense qu'on est vraiment, puis la première rencontre, Lamoriello-Tavares était là pour dire, établissons les bases, là, c'est-à-dire, est-ce qu'on va, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as le goût, on parle peut-être même pas nécessairement d'argent là-dedans, tout ça, parce que l'agent est des fois n'est pas là, donc je pense pas qu'on soit au courant de sa décision, mais c'est sûr que les Islanders, dans leur tête, se disent, on peut pas se rendre jusqu'au 1er juillet. Là, si on se rend jusque-là, c'est presque sûr qu'on va le perdre parce qu'il va y avoir 15, 18, 22 offres qui vont se ressembler de toutes les équipes de la Ligue nationale. Donc, je pense pas que ce dossier-là soit réglé, mais je serais curieux d'être dans sa tête à Tavares puis de dire, tu sais, il est peut-être très heureux, lui, avec les Islanders, puis avec Doug Waite, puis avec, tu sais, jouer avec Bailey, puis Endersley, puis tout ça. Puis peut-être qu'il, dans sa tête, c'est juste une question de chiffres pour qu'il retourne là-bas. Mais je pense que tu connais les agents aujourd'hui. Parfois, on fait miroiter, tu sais, plus d'argent, puis si tu vas à Toronto, peut-être plus de commandites, puis tu vas aller chercher beaucoup d'argent hors classe. Il y a toutes sortes de petits détails comme ça qui peuvent nous échapper, mais moi, j'ai l'impression que dans le cas de Tavares, déjà, sa liste est déjà faite pour peut-être 3 ou 4 clubs dans la Ligue nationale. Mais pas plus que ça. Il sait pas mal vers où il va s'en aller sans que sa décision finale soit déjà prise.
Si t'es Tavares, puis ton agent dit tu peux garder le même condo, les Rangers sont intéressés, est-ce que t'es tenté?
Non, moi je pense que non. Je pense que non parce que puis t'en as parlé un petit peu, les Rangers ont trouvé leur nouvel entraîneur, puis on prend un peu la direction que les Flyers avaient pris, puis certaines équipes, c'est-à-dire on pige dans la NCAA.
Ouais.
Mais moi je pense que non. Puis tu sais, je comprends ton point très bon en disant tu pourrais vivre dans le même milieu, puis tout ça, juste changer d'organisation. Mais les Rangers s'en vont pas dans la bonne direction. Puis tu sais, je remets ça un peu dans le contexte en disant s'il veut jouer au Canada présentement. Je pense que les deux endroits où ça peut être intéressant, c'est Toronto puis Winnipeg. Winnipeg n'a pas vraiment de place. Il va y avoir tellement de gens, de joueurs à renégocier. Est-ce que oui, il y a des marchés de hockey qui sont fort intéressants, mais as-tu le goût d'aller jouer à Vancouver, à Montréal ou à Ottawa? Pas en tout. Il n'y a aucune raison. Donc, c'est pour ça que je pense que ça limite les options. Puis, comme les Rangers, eux, sont en reconstruction, puis il y a quelques vétérans qui partiront pas, là, comme Lundqvist et compagnie. Moi, je pense qu'on va sûrement faire du surplace pour au moins 2, 3, peut-être 4 ans. Donc, je pense pas que ce soit une option viable si Tavares veut surtout gagner en premier lieu.
François, moi, je pense que si Patrick Roy revient à la Ligue nationale, ça va être comme DG plus que comme entraîneur-chef, mais à une certaine époque, il disait c'est Montréal, Colorado, mais personne d'autre. Penses-tu que si les Sénateurs débutent une victoire, 12 défaites, il pourrait devenir leur entraîneur-chef?
C'est certainement une possibilité, puis je pense que la phrase qui a été dite il y a quelques années, je pas sûr qu'elle est encore valable aujourd'hui. Tu sais, pense-y sérieusement, si t'as un club, tu sais, très intéressant dans la Ligue nationale, une ville que t'as aimé comme joueur quand tu visitais, qui s'en va dans la bonne direction, qui t'offre de quoi d'intéressant comme DG, je pense que tu dis, attends un peu, là, je vais y penser sérieusement. Puis Ottawa pourrait peut-être être une option intéressante parce qu'évidemment, t'es quand même pas loin de tes racines. Tu restes dans, tu sais, au Canada, puis tu restes presque au Québec à quelque part. La question est toujours de savoir s'ils commencent un 12, les sénateurs ou quelque chose comme ça, ils s'en vont dans quelle direction? Parce que, tu sais, on va voir cet été ce qui va se passer avec Carlson et quelques autres. Mais, tu sais, je pense pas que Patrick va retourner en haut en se disant « J'en ai pour 2 ou 3 ans à remettre les pions en place. » Puis quand, finalement, on va recommencer à gagner, ce sera peut-être plus moi l'homme de la situation. J'aurai peut-être même plus le même boss au-dessus de moi. Fait que je pense que les, un gars comme Patrick qui a pas besoin d'argent, a pas besoin de quelque chose absolument dans sa vie. Je pense que si l'opportunité est très belle à quelque part dans la Ligue nationale, il va le faire. Si c'est à Ottawa, ce sera à Ottawa. Mais dans les circonstances, je serais quand même assez surpris parce que je suis pas convaincu que les sénateurs s'en vont dans la bonne direction. Quoique, avec les Chabot, Brown et quelques autres, White et compagnie, ils ont quand même quelques bons jeunes, mais on aura des décisions très difficiles à prendre dans les prochaines semaines, voire la prochaine année. Puis c'est certain que c'est peut-être Guy Boucher qui va en payer de son poste à un certain moment donné si on gagne pas, là.
François, j'étais à Fenway samedi soir pour voir les Red Sox gagner 6-3 contre les Orioles. Évidemment, j'étais content que Machado ne soit pas échangé avant notre passage le 19 mai. Il va l'être, j'imagine, dans les prochaines semaines ou d'ici la date limite. Mais les Red Sox, là, c'est assez impressionnant de voir. Mais je me suis pas rendu compte de ça samedi, là, mais samedi encore plus quand tu les vois défiler au marbre. Avec DeVries, Bogart, Betts puis Benintendi, c'est une équipe qui repêche de brillante façon. Est-ce que c'est les meilleurs dans le baseball, selon toi?
Si c'est pas les meilleurs, et je pense qu'ils sont certainement dans le top 5, mais tu sais, il y a un 4 ou 5 équipes certainement qui sont supérieures aux autres. Ouais, Houston, écoute, faut-tu mettre les Yankees là-dedans? Les Yankees ont bien repêché avec les Gleyber Torres puis les Miguel Andujar puis les jeunes qu'on voit aujourd'hui. Okay. Je pense que les Cubs ont fait du bon travail aussi. Tu sais, quand tu regardes un gars comme Chris Bryant puis une couple d'autres comme ça dans l'organisation, on a pris des bonnes décisions. Mais regarde aussi les équipes à petit budget, les Rays de Tampa Bay puis les clubs comme ça.
Okay.
C'est souvent c'est ton pain puis ton beurre là, le repêchage, puis il faut que tu prennes les bonnes décisions.
Parfait.
Mais il faut que tu développes aussi les jeunes de la bonne façon. Puis là des fois, c'est là que certaines organisations ont pas nécessairement vu les choses de la bonne façon.
Okay.
Mais ce qui se passe présentement avec les Red Sox et les Yankees, ça va être une lutte à finir, je pense, jusqu'à la fin de l'année.
Ouais.
Puis tu sais, c'est deux clubs qui se ressemblent un peu. On a du punch en attaque. On est quand même solide sur la butte. Je pense que les Yankees ont peut-être un petit peu plus de punch en attaque. Puis tu sais, la relève de fin de match est un peu plus solide aussi. Mais j'ai bien hâte de voir, mais pour probablement que les deux équipes vont être en série d'une manière ou d'une autre. Tu veux pas être le wild card. Donc, je pense que même les équipes qui ont des très gros budgets, qui peuvent signer des agents libres, faut que tu repêches de la bonne façon. Puis, tu sais, un gars comme DeVries au troisième but, c'est un bel exemple d'un jeune que tu peux signer ou que tu peux repêcher. Puis des gars comme ça, tu as parlé de Benintendi puis de Betts.
Ouais.
Ce sont même pas tous des choix de première ronde à un moment donné.
Non.
Des fois, c'est des choix un petit peu plus lointains qui se développent très bien. Mais là-dessus, je pense que les Red Sox ont frappé dans le mille à quelques reprises.
Parfait.
Les Yankees l'ont fait aussi, mais la différence, c'est qu'ils sont peut-être des fois un petit peu plus patients, voire même trop patients avant d'amener certains joueurs. Mais les jeunes arrivent, là, puis les jeunes contribuent pour ces deux équipes-là.
Parfait. Un gros merci, François.
Bonne soirée.
Bonne soirée à toi. La tornade Shohei Ohtani des Angels est de passage à Toronto cette semaine, parlant de baseball.